Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 27, Daf Kaf Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Bechoshin kol betsea, il sera permis de labourer la superficie d'un sea, qui est un carré de 50 coudées sur 50 coudées pour ces arbres. S'il y a moins de 3 arbres dans une superficie d'un séa, il sera interdit de labourer la totalité de ce champ. Il ne sera permis de labourer que le nécessaire pour la croissance de ces arbres. Alors la Gemara demande, Kama havulehu, quelle est la superficie de ce bet séa? La Gemara répond, Tre alfe vechamesh mea garmide. C'est une superficie de 2500 coudées carrés. C'est-à-dire, le bet séa est un carré de 50 coudées sur 50 coudées, donc environ 30 mètres sur 30 mètres. Cela donne donc une superficie de 900 mètres carrés. Alors, lorsque nous partageons cette superficie entre les trois arbres, le kolchad kamamatele, quelle surface revient à chacun de ces arbres? L'agma répond, tmanemea utlatin utlata vetilta. La superficie sera donc le tiers de ces 2500 coudées carrés. Cela fera donc 833 coudées carrés et un tiers de coudées carrés. Et c'est cela donc la superficie nécessaire pour la croissance d'un arbre. Alors la Gemara demande, Akate nefishele deula, la superficie donnée par Oula est plus grande, parce que la Gemara comprenait que la surface donnée par Oula était mesurée en carré. Donc si nous avons 16 coudées de chaque côté de l'arbre, nous avons un carré de 32 coudées de côté, cela nous donne une superficie de 1024 coudées carrés, ce qui est beaucoup plus que la superficie donnée par la Mishnah de 833 et un tiers de coudées carrés. L'Agma répond, l'Odak, Oula n'a pas cherché à donner les mesures d'une manière exacte, mais en fait, la surface nécessaire pour la croissance d'un arbre est de 833 coudées carrés et un tiers, comme nous le voyons dans la Mishnah, ce qui nous donne un carré de un peu moins de 29 coudées de côté, ou 14 coudées et demi de chaque côté de l'arbre. Oula a été donc plus large et a dispensé cette personne d'offrir les prémices si son arbre se trouve à moins de 16 coudées de la bordure du champ de son voisin. Alors la Gemara demande, Emour de Amrinan Lodak, il est vrai que parfois nous disons que le Amora qui a donné des mesures n'a pas cherché à être exact, le Khumra. C'est lorsque l'inexactitude donne une mesure plus stricte. Le kula lodak mi amrinan. Mais est-ce que nous dirons que le Amora en question aurait donné des mesures inexactes lorsque cette inexactitude va au contraire dans le sens de la kula pour permettre des choses interdites? En effet, Oula va exempter le propriétaire de cet arbre d'offrir des prémices, même si celui-ci est éloigné de plus de 14 coudées et demi de la bordure du champ de son voisin, s'il n'est pas éloigné d'une distance de 16 coudées. Alors l'agma répond, Misavart beribua kamrinan, est-ce que tu peux penser que ces superficies dont nous parlons sont mesurées en carré? Beigula kamrinan, ces superficies dont nous parlons sont mesurées en cercle. Par conséquent, la mesure donnée par Oula correspond à peu près à celle donnée par la Mishnah, comme nous le verrons par la suite. La Gemara demande, Mirde kama meruba yoter al haigul. Finalement, de combien dépasse la surface d'un carré celle d'un cercle d'un même diamètre? La Gemara répond, Revia, c'est le quart de la surface de ce carré. Autrement dit, la superficie d'un cercle d'un diamètre identique au côté d'un carré sera le trois quarts de la superficie de ce carré. Nous noterons que lorsque les Chachamim étudient la surface ou la circonférence d'un cercle, ils ont choisi pour simplifier les calculs de ne pas prendre en ligne de compte les nombres après la virgule. Par conséquent, nous verrons dans la Gemara que pi désigne le chiffre 3 et non pas 3,14 et des poussières comme nous le savons. Par conséquent, la superficie d'un cercle étant pi r au carré, selon le calcul de la Gemara, la superficie du cercle est donc 3 fois le rayon au carré, alors que la superficie d'un carré, qui est formée par quatre petits carrés d'un côté égal au rayon du cercle, donc 4 fois le rayon au carré. Par conséquent, les mesures données par Oula pour la superficie nécessaire pour la croissance d'un arbre étant mesurées en cercle et non pas en carré, il faudra déduire un quart de la superficie que nous avons eue plus haut. Donc nous déduirons des 1024 coudées carrées que nous avions plus haut, d'un carré d'un côté, de 32 coudées de côté. Nous déduirons un quart. Pachulehu, il restera donc Shvamea Veshitin Vetmania, 768 coudées carrées, qui est la superficie d'un cercle d'un diamètre de 32 coudées ou d'un rayon de 16 coudées. Ce qui est un peu moins que les mesures données par la Mishnah que nous avons vu plus haut, qui est la superficie de 833 et un tiers coudées carrées. Donc, Akate Pachle Palga de Amta, il manque donc une demi-coudée pour arriver à la superficie enseignée par la Mishnah. C'est-à-dire, il faudrait ajouter au rayon une demi-coudée. Donc, à la place de 16 coudées, il faudrait avoir 16 coudées et demi pour arriver à une superficie proche de celle enseignée par la Mishnah. En effet, si nous avons un cercle d'un rayon de 16 coudées et demi, nous arriverons à une superficie de 816 coudées carrées et des poussières, selon le calcul effectué par la Gemara, et non pas 16 coudées comme l'a enseigné Oula. D'ailleurs, pour avoir un calcul plus juste, il faudrait un cercle d'un rayon de 16 coudées et 2 tiers de coudées pour arriver à la superficie de 833 et 1 tiers coudées carrées que nous a enseigné la Mishnah. D'ailleurs, comme le précise le Rashi, il existe d'autres versions selon lesquelles la Gemara écrit ici 2 tiers de coudées et non pas une demi-coudée. D'autre part, si nous faisons le calcul tout en sachant que la valeur de pi est de 3,14, nous obtiendrons un cercle de 16 coudées et 1 tiers pour avoir la superficie de 833 coudées carrées et 1 tiers. En tout cas, la mesure de 16 coudées donnée par Oula est une mesure inexacte. L'Agma répond, Hainu Dolodak. C'est donc cela que nous avons voulu dire plus haut, que Oula a choisi de ne pas être exact dans ses calculs, parce que Oula Khumra Lodak, parce qu'en étant inexact, il a été plus strict. En effet, selon Oula, la personne dont l'arbre est éloigné de plus de 16 coudées de la bordure du terrain de son voisin devra déjà offrir les prémices, alors que selon les mesures enseignées par la Mishnah, si l'arbre est à une distance de moins de 16 coudées et demi ou de 16 coudées et 2 tiers, selon les versions de la Gemara, de la bordure du terrain de son voisin, il est encore dispensé de l'offrande des prémices. Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah dans Bikurim Perek Aleph Mishnah Yud Aleph. La Mishnah dit, Hakone ilan vekarkao, celui qui achète un arbre et le terrain qui l'entoure, mais vive et coré, il pourra offrir les prémices à partir des fruits qui ont poussé sur cet arbre, et il pourra aussi lire le passage correspondant qui doit être lu lors de l'offrande des prémices. Et cela parce que nous considérons que la terre lui appartient, il pourra donc lire le passage correspondant où il remercie Akosh Baruch Hu pour les produits de la terre qu'il lui a donné. Maïlav Kolchehu, n'est-ce pas qu'il pourra lire ce passage même s'il a acheté un tout petit peu de terre autour de cet arbre, donc moins qu'un rayon de 16 coudées tout autour de cet arbre. Nous aurions donc une preuve ici contre l'opinion de Oula, selon laquelle la personne dont l'arbre est à une distance de moins de 16 coudées de la bordure du terrain de son voisin ne peut pas offrir les prémices. Akma répond, l'eau. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais Yudvavama, il pourra lire ce passage uniquement s'il achetait un terrain dans un rayon de 16 coudées tout autour de cet arbre. Tashma, viens écoute une preuve d'une autre Mishnah dans Masechet Bikurim, Perek Aleph, Mishnah Vav. La Mishnah dit, Kana Shnei Ilanot Betor Shel Chavero, celui qui achète deux arbres dans la propriété de son voisin, sans préciser qu'il achetait aussi le terrain tout autour, mais vive et nocoré. Il pourra offrir les prémices avec les fruits produits par cet arbre, mais il ne pourra pas lire le passage correspondant, puisque finalement il ne pourra pas remercier Akash Baruch Hu pour les fruits produits par sa terre. Ha Shlosha, nous pouvons donc déduire de la Mishnah que s'il avait acheté trois arbres, dans ce cas, comme la Mishnah le dit clairement par la suite, il a aussi acheté le terrain tout autour de ces arbres, mais vive et coré, il pourra donc offrir les prémices avec les fruits produits par ces arbres, et il pourra même lire le passage correspondant. Maïlav Kolchehu, n'est-ce pas que nous considérons que la personne qui a acheté trois arbres dans la propriété de son prochain n'a acheté qu'un petit morceau de terre tout autour de ces arbres, et non pas un rayon de 16 coudées tout autour de ces arbres. Et quand même, nous voyons qu'il peut lire le passage où il remercie Akadosh Baruch Hu pour les fruits produits par sa terre, bien qu'il ne possède pas un rayon de 16 coudées tout autour de cet arbre, contrairement à l'enseignement de Oula. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, Hachanami, Yudvavama. Là aussi, l'explication est que nous considérons que la personne qui achète 3 arbres dans la propriété de son prochain a aussi acquis un rayon de 16 coudées tout autour de ces arbres. Par conséquent, il pourra offrir les prémices avec les fruits produits par ces arbres et lire le passage correspondant. Tashma, viens écoute une preuve à partir d'une Mishnah dans Pea, Peregimel, Mishnah Vav. La Mishnah dit, Rabbi Akiva Omer, Karka Kolchehu, la personne qui possède un tout petit terrain, même de la plus petite surface qui existe, Chayav Pea, aura l'obligation de laisser la Pea pour les pauvres. C'est laisser une petite partie de la récolte. En général, cette partie est fixée à 1/60 par les Chachamim. Donc, il faudra laisser cette partie aux pauvres. Ou Bébé Kourim, il aura aussi l'obligation d'offrir les prémices des produits produits par ce petit morceau de terre. Le Kotvim Alav Pousboul. Et si le débiteur possède même un tout petit morceau de terrain, le créancier pourra écrire le Pousboul. C'est-à-dire, l'une des mitzvot de la Shemitah, c'est que toutes les dettes contractées avant la Shemitah à la 7e année sont annulées à la fin de la Shemitah. Les Chachamim, voyant que les riches refusaient de prêter aux pauvres à l'approche de la 7e année, ont institué le Prousboul. C'est un document dans lequel le créancier remet toutes ses dettes au tribunal. C'est donc plus lui qui les réclame, mais c'est le tribunal ou c'est lui qui le fait au nom du tribunal. Et cela donc lève l'interdiction de réclamer les dettes après la Shemitah. Les Chachamim n'ont institué cela que dans le cas où le débiteur possède un terrain. Et cela parce qu'en général, le créancier n'accepte de prêter de l'argent que lorsque le débiteur possède un terrain pour pouvoir garantir le remboursement de cette dette. Mais lorsqu'il ne possède pas de terrain, les Chachamim n'ont pas institué le Prousboul. C'est cela donc que la Mishnah nous enseigne, que même si le débiteur possède un tout petit morceau de terrain, le créancier pourra écrire le Prousboul. Voir le Tosfot pour plus de précision.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Kavzayin Amud Bet. Veniknin ima nechassin she'en laem achrayut. Et on peut acquérir en même temps qu'un petit morceau de terrain, des biens qui ne peuvent pas servir de garantie pour le paiement d'une dette, en d'autres termes, des biens mobiliers. C'est-à-dire, lorsqu'une personne veut acquérir à la fois des biens immobiliers et des biens mobiliers, il est enseigné dans la Mishnah de Maseret Kiddushin d'Afka Vav que l'acheteur peut se contenter de faire l'acte d'acquisition sur le terrain, c'est-à-dire en payant de l'argent ou en recevant l'acte de vente. Cela suffira pour qu'il acquiert en même temps les autres biens mobiliers qu'il voulait acheter. La Mishnah nous enseigne donc que même si cet acheteur achète un tout petit morceau de terrain, il pourra aussi acquérir en même temps des biens mobiliers. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que même si une personne possède un tout petit morceau de terrain, cela suffit pour que cette personne soit concernée par l'obligation d'offrir les prémices. Alors la Gemara comprenait ici que même si cette personne qui possède un tout petit morceau de terrain y a planté un arbre, pourra offrir les prémices des fruits produits par cet arbre. Alors, c'est une question contre l'opinion de Oula, selon laquelle un arbre planté à une distance de moins de 16 coudées de la bordure du terrain de son voisin est considéré comme voleur, son propriétaire ne peut pas offrir les prémices des fruits produits par cet arbre. Alakma répond à Achabema Eskinan, ici, de quel cas il s'agit, Bechite, d'un cas où cette personne a planté du blé dans ce petit morceau de terrain. En effet, le blé fait partie de cette sorte de produits qui font la gloire d'Eretz Israël. Le blé, donc, fait partie des fruits qui sont concernés par l'obligation de l'offrande des prémices. Par conséquent, puisque le blé n'étend pas ses racines, cette personne qui possède un tout petit morceau de terrain et qui y a planté du blé pourra offrir les prémices à partir de ce blé qui a poussé dans sa terre. Alors l'Agma a conclu là-dessus, des Kanami, nous pouvons effectivement déduire que c'est cela qu'a voulu dire la Mishnah, des Katané, parce qu'il a été enseigné dans la Mishnah, Kolchehu, un terrain de n'importe quelle taille, même quelques millimètres. Forcément donc, la seule chose qu'il pourrait y planter, c'est une graine comme un grain de blé. La Gemara conclut là-dessus, Shmamina, effectivement, c'est une bonne preuve. En la Gemara continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta concernant l'obligation de prélever la Trouma. En effet, cette obligation ne concerne que les fruits ou les légumes qui ont poussé en Eretz Israël. Avant le prélèvement de la Trouma et du Maaser, ces fruits sont appelés Tevel. Alors la braïta dit, Ilan miktato ba'aretz ou miktato b'chutz la'aretz, un arbre qui a été planté à la frontière d'Eretz Israël de manière à ce qu'une partie du tronc se trouve en Eretz Israël et une partie du tronc se trouve en dehors d'Eretz Israël. Tevel v'chulin mu'ravim zebeze. Les fruits produits par cet arbre sont composés d'un mélange de tevel et de chulin. Et cela parce que cet arbre tire sa sève à la fois d'Eretz Israël et d'en dehors d'Eretz Israël. Par conséquent, les fruits produits par cet arbre sont considérés comme un mélange de tevel et de chulin. Donc pour prélever la Trouma sur ces fruits, on ne pourra que le faire à partir des fruits qui ont poussé sur cet arbre, et non pas des fruits qui ont poussé entièrement en Eretz Israël. D'vrei Rebbi, ce sont les paroles de Rebbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hagadel Bechiyuv Chayav, les fruits qui ont poussé dans l'endroit concerné par l'obligation de prélever la Trouma, donc dans les branches se trouvant en Eretz Israël, sont concernés par l'obligation de prélever la Trouma. On pourra même, pour prélever la Trouma sur ses fruits, employer des fruits qui ont poussé entièrement en Eretz Israël. Hagadel Beptur, Patur, les fruits qui ont poussé dans l'endroit qui n'est pas concerné par le prélèvement de la Trouma sont exemptés de ce prélèvement. Donc les fruits qui ont poussé sur les branches se trouvant en dehors d'Eretz Israël sont exemptés du prélèvement de la Trouma et du Maaser. Ad Kan l'a pligué, jusque-là nous avons vu la discussion entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, et la demain Savar Yesh Brera. C'est seulement que Rabban Shimon ben Gamliel dit qu'on peut appliquer le principe de Brera. Ici, il ne s'agit pas du principe de Brera appliqué habituellement, mais ici, cela veut dire, nous considérons que les fruits qui ont poussé en Eretz Israël tirent leur subsistance entièrement de la sève provenant d'Eretz Israël. Ils sont donc concernés par l'obligation du prélèvement de la Trouma. Et ceux qui ont poussé en dehors d'Eretz Israël, nous considérons qu'ils ont tiré leur sève d'en dehors d'Eretz Israël et par conséquent sont exemptés de l'obligation de ce prélèvement. Umar Savar en Brera, alors que Rebbi pense que nous ne considérons pas que les fruits qui ont poussé en Eretz Israël tirent leur sève d'Eretz Israël, et ceux qui ont poussé en dehors d'Eretz Israël ont tiré la sève d'en dehors d'Eretz Israël. Nous dirons qu'il y a ici un mélange. Par conséquent, tous les fruits de cet arbre sont considérés comme un mélange de tevel et de chulin. Il faudra donc prélever la Trouma et le Maaser des fruits de cet arbre, mais à partir des fruits qui ont poussé sur cet arbre, comme nous l'avons expliqué. En tout cas donc, c'est uniquement cela leur sujet de discussion, parce que, comme l'explique le Nachalat Moshe, une partie du tronc de cet arbre se trouve en Eretz Israël, et une autre partie se trouve en dehors d'Eretz Israël. Aval Gadel Beptur, mais si cet arbre avait entièrement poussé dans une zone qui n'est pas concernée par l'obligation du prélèvement de Trouma et de Maaser, c'est-à-dire tout le tronc de cet arbre était planté en dehors d'Eretz Israël, d'Ivrei Kol Patur. Tout le monde serait d'accord que les fruits de cet arbre ne sont pas concernés par l'obligation du prélèvement de la Trouma et du Maaser, et cela, même si cet arbre se trouve à une distance de moins de 16 coudées d'Eretz Israël. Contrairement à l'opinion de Oula, selon lequel nous prenons aussi en considération l'endroit d'où provient la sève qui a permis la croissance de l'arbre. Selon lui, l'arbre se trouvant à une distance de moins de 16 coudées d'Eretz Israël devrait être considéré comme produisant des fruits qui sont un mélange de tevel et de chulin. La Gemara répond, ici de quel cas il s'agit, de Mafsik Tsunma. Il s'agit d'un cas où un rocher se trouve à la base de ce tronc, de manière à séparer la partie de l'arbre se trouvant en Eretz Israël de celle qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. C'est pour cela donc que Rabban Shimon ben Gamliel dit que l'on peut déterminer la partie de l'arbre qui donne des fruits concernés par l'obligation du prélèvement de la Trouma et du Maaser, c'est donc la partie qui se trouve en Eretz Israël, et celle qui est exemptée du prélèvement de cette Trouma. Alors la Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi, Maïtame de Rebbi, quelle est la raison de Rebbi? Pourquoi selon lui nous considérons que ces fruits sont un mélange de Tevel et de Chulin? puisque finalement les deux parties de l'arbre sont séparées. L'agma répond de hadre arve. Il s'agit d'un cas où plus haut, donc au-dessus de ce rocher, les deux parties de l'arbre se réunissent. Ubemaikum flegé. Finalement donc, c'est quoi le sujet de discussion entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel? L'agma répond mar savar avira mevalbel. Rabbi pense que le fait que les deux parties de l'arbre se réunissent dans l'air, c'est-à-dire au-dessus de ce rocher, est suffisant pour mélanger les sèves provenant à la fois d'Eretz Israël et de Chutz Laretz. Par conséquent, donc, nous considérons ces fruits comme un mélange de Tevel et de Choulin. Omar Savar, Haïle Choudekaï, Ve Haïle Choudekaï. Alors que Rabban Shimon ben Gamliel pense que cette partie de l'arbre se trouve toute seule et l'autre partie de l'arbre se trouve toute seule, c'est-à-dire le fait que le tronc se soit réuni au-dessus de ce rocher n'est pas suffisant pour que l'on considère que les sèves se mélangent de manière à produire un mélange de Tevel et de Choulin. Donc la partie qui se trouve en Eretz Israël est considérée comme ayant poussé en Eretz Israël. Il faudra donc prélever la Trouma de ses fruits. Et la partie qui se trouve en dehors d'Eretz Israël est considérée comme ayant poussé en dehors d'Eretz Israël et est exemptée de ce prélèvement. Mais il est possible que si un arbre se trouve à moins de 16 coudées d'Eretz Israël, il n'y a pas de rocher qui empêche les racines de pénétrer en Eretz Israël, même Rabban Shimon Gamliel serait d'accord que les fruits de cet arbre seraient considérés comme un mélange de Tevel et de Choulin, comme nous le comprenons de l'opinion de Oula. La Gemara demande, est-ce que l'arbre tire sa subsistance uniquement dans un rayon de 16 coudées? Pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah plus haut d'Af Kafé Amoudbet, Marikin et Taïlan Minabor Kafé Ama. Il faut éloigner la plantation d'un arbre du puits de son voisin d'une distance de 25 coudées. Nous pouvons donc voir dans cette Mishnah que les racines s'étendent dans un rayon de 25 coudées. La Gemara répond, Amar Abaye, Mizal Tuvazle. Il est vrai que les racines de l'arbre s'étendent dans un rayon beaucoup plus grand que 16 coudées. En effet, elles s'étendent jusqu'au rayon de 25 coudées. Comme nous le voyons. Accroché, l'homme accroché et la tchéchesréama. Mais les racines affaiblissent l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire tirent la sève nécessaire pour la croissance de cet arbre, uniquement jusqu'à un rayon de 16 coudées. Tfé l'homme accroché, mais dans un rayon de plus de 16 coudées, elle ne tire plus la sève nécessaire à la croissance de l'arbre. C'est pour cela donc que pour l'offrande des prémices, comme l'a dit Oula, on pourra les offrir si l'arbre est éloigné de la bordure du terrain de son voisin d'une distance de 16 coudées. Kiata Rav Dimi, quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a rapporté l'enseignement suivant. Amar, Ba'amine, Resh Lakish Mirabi Yochanan. Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Ilana Samouch le Metzar Betor Yudvavama Mahu. Un arbre qui se trouve à proximité de la bordure du terrain de son voisin dans un rayon de 16 coudées. Quelle est la halakha? Amarle, Rabbi Yochanan lui a répondu, Gazlanhu, cet arbre est considéré comme voleur, ve'en mevin mimenu bikurin. On ne pourra donc pas offrir les fruits de ces arbres en tant que prémices. Kiata Rabin, lorsque Rabin est venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Echad ilan hasamuch lametzar. Soit l'arbre qui se trouve à proximité de la bordure du terrain de son voisin, Bechadilan a noté, soit l'arbre dont les branches se trouvent sur le terrain du voisin, mais vive et coré, son propriétaire pourra offrir les prémices des fruits de ces arbres, et même lire le passage prévu pour l'offrande des prémices. Shalmenatken hinchil Yoshua li Israël et Taharet, parce que c'est à cette condition que Yoshua partageait la terre d'Eret Israël entre les bénis Israël. C'est-à-dire, Yoshua avait posé comme condition que le propriétaire de l'arbre se trouvant à proximité du champ de son voisin ne serait pas considéré comme voleur et il pourra donc offrir les prémices. Par contre, comme l'explique le Shita Mekoubetzet, Oula pensait que Yoshua n'avait pas posé de condition à ce sujet. Nouvelle Mishnah. Ilan Shehu Notel Esadeh Havero. Un arbre dont les branches s'étendent sur le champ de son voisin. Kotsetz Melo Hamardea Algabea Machresha. Le propriétaire de ce champ aura le droit de couper les branches de cet arbre jusqu'à la hauteur de l'aiguillon que tient la personne qui dirige la charrue pour diriger l'animal. Et cela pour ne pas que les branches de cet arbre le gênent lorsqu'il veut labourer sous les branches de cet arbre. Ou becharouv ou bechikma, et lorsqu'il s'agit d'un caroubier ou d'un sycomore, kenegedamishkolet, il aura le droit de couper les branches en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire toutes les branches qui dépassent sur son champ. Et cela parce que ces arbres produisent beaucoup d'ombre, ce qui gêne les cultures. Bet Hashlachim, lorsqu'il s'agit d'un champ qui doit être arrosé constamment, Kol Ha'ilan Keneged Amishkolet. Alors le propriétaire de ce champ aura le droit de couper toutes les branches de n'importe quel arbre en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire toutes les branches qui dépassent sur son champ. Et cela parce que l'ombre est nocive pour les cultures qui doivent être arrosées constamment. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Tsrak Keneged Amishkolet. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, dont les branches dépassent dans le champ du voisin, celui-ci pourra les couper en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire pourra couper toutes les branches qui dépassent sur son champ. Alors la Gemara va interpréter cette opinion de Abba Shaul. Les Chachamim se sont posé la question suivante. Abba Shaul a Rechakae, est-ce que Abba Shaul se rapporte sur le début de la Mishnah, où le premier auteur de la Mishnah permet de couper les branches qui dépassent sur son champ jusqu'à la hauteur de l'aiguillon? Là-dessus, Abba Shaul dirait que lorsqu'il s'agit d'un arbre qui ne produit pas de fruits, il aura le droit de couper toutes les branches qui dépassent sur son champ, au Asefakae, ou bien est-ce que Abba Shaul se rapporte sur la dernière partie de la Mishnah, où le premier auteur de la Mishnah permet de couper les branches de tout arbre qui dépasse lorsqu'il s'agit d'un champ qui doit être arrosé constamment. Abba Shaul limite cette permission et ne permet de couper les branches de tout arbre uniquement lorsqu'il s'agit d'un arbre qui n'est pas fruitier. Alagma répond, Tashma vient coûte une preuve d'une braïta, d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Bet Hashlachin, lorsqu'il s'agit d'un champ qui doit être arrosé constamment, Abba Shaul Omer, Kol Ha'ilan Keneged Amishkolet. Il sera permis de couper les branches de tout arbre en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire de couper toutes les branches qui dépassent sur son champ. Parce que l'ombre est nocive pour les cultures d'un champ qui doit être arrosé constamment. Shma Mina, nous pouvons déduire donc de cette braïta, Are Shakae, que lorsqu'Abba Shaul a dit qu'il est permis de couper toutes les branches d'un arbre qui ne produit pas de fruits, se rapporte sur le début de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué. Parce que dans le cas d'un champ qui doit être arrosé constamment, nous avons vu clairement qu'Abba Shaul permet de couper toutes les branches de tout arbre. Tagma a conclu là-dessus, Shma Mina, effectivement, c'est une bonne preuve. Amar Ravashi, Matnitin Namideka, nous pouvons même le déduire de notre Mishnah, Dekatane, parce que la Mishnah a enseigné en s'exprimant de la manière suivante. Kol Ilan Tsrak, tout arbre qui ne produit pas de fruits, il sera permis d'en couper toutes les branches. On comprend bien ce passage si Abba Shaul se rapporte au premier cas de la Mishnah. Il vient donc élargir la permission du premier auteur de la Mishnah pour permettre de couper toutes les branches d'un arbre qui n'est pas fruitier. Hainu de Katane Kolilan. On comprend bien donc pourquoi la Mishnah s'exprime en disant tout arbre. Et là, Iamart Asefakae, mais si tu dis que Abba Shaul se rapportait sur le dernier cas de la Mishnah, il vient donc limiter la permission du premier auteur de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué. Alors, Ilan Tsrak Mivaele, il aurait dû s'exprimer en disant, lorsqu'il s'agit d'un arbre qui n'est pas fruitier, il sera permis d'en couper toutes les branches. Sous-entendu, s'il s'agissait d'un arbre fruitier, il ne serait pas permis d'en couper toutes les branches. Et la lave Shmamina, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire de là, Are Shakai, qu'Abba Shaul se rapportait au début de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué. La Gemara conclut là-dessus, Shmamina, effectivement, c'est une bonne preuve. Nouvelle Mishnah. Ilan Shehu Notel Rshut Arabim, un arbre dont les branches s'étendent sur la voie publique, Kotsetz Kede Sheye Gamal Over Verorbo. Il faudra en couper les branches de manière à ce qu'un chameau avec une personne qui le chevauche puisse passer sans encombre. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taun Pishtan Ochavilez Murot. Il faudra couper les branches de manière à ce que puisse passer un chameau chargé de lin ou de paquets de branches. Rabbi Shimon Omer, Kol Ha'ilan Keneged Amishkolet, il faudra couper les branches de n'importe quel arbre qui dépasse sur la voie publique en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire toutes les branches qui dépassent sur la voie publique, Mipnei Atuma, à cause des impuretés. La Gemara expliquera. Nous sommes Bava Batra, Daf Kavzayin Amud Bet, à la 13e ligne du bas de la page, juste après la Mishnah. On a vu dans la Mishnah donc que l'arbre dont les branches s'étendent sur la voie publique, il faudra en couper les branches de manière à ne pas gêner le passage, comme la Mishnah l'a expliqué. Et cela, bien que les branches risquent de repousser et de gêner les passants. Alors la Gemara demande, Mantana, quel est le Tana qui pense que de Benezakim Batar Umdena de Hashta Azlinan, que pour des dommages pouvant être occasionnés à autrui, on suit notre estimation actuelle pour permettre une certaine action, sans prendre des précautions pour le futur, parce que là, nous coupons les branches uniquement pour ne pas gêner le passage, même si, comme nous l'avons dit, les branches repousseront par la suite. La Gemara répond, Amar Resh Lakish, Bemach Loket Shnuya. Effectivement, cela dépend d'une discussion de Tanaïm. Rabbi Eliezeri est l'auteur de notre Mishnah, et Rabbi Eliezer d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah. Plus loin d'Av Samer, Enosin Chalal Tachad Roshut Arabim, il est interdit de creuser une cavité sous la voie publique, Boroch Shichinu Me'arot, ou bien des puits, des fosses et des grottes, et cela, même s'il prend la précaution de les couvrir. Parce que le couvercle risque de s'effondrer, et quelqu'un risque de tomber dedans. Rabbi Eliezer m'attire. Rabbi Eliezer permet de creuser une cavité sous la voie publique, birde shetehe agala mehalechet utuna avanim, si le couvercle est suffisamment solide, de manière à permettre le passage d'une charrette remplie de pierres. Selon lui donc, nous ne craindrons pas que le couvercle s'effondre par la suite. Alors là aussi, selon Rabbi Eliezer, il sera permis de couper uniquement les branches qui gênent le passage, même si les branches repousseront par la suite. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Tema Rabbanan, toujours pourrais-je te dire que même les Chachamim seront d'accord avec notre Mishnah. Parce que Hatam, là-bas, dans le cas d'une cavité sous la voie publique, Zimnin Demifrit Velavadate, il se peut que le couvercle s'effondre sans qu'il le remarque, et c'est pour cela qu'il est interdit de creuser une cavité sous la voie publique. Avalacha, mais ici dans notre cas où il s'agit de branches qui sont visibles de tous, Kama Kama Kakaitzle, il coupera les branches au fur et à mesure qu'elles poussent. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des précautions supplémentaires. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taun Pishtan O Chavilez Murot. Il faut couper les branches de manière à permettre le passage d'un chameau chargé de lin ou de paquets de branchages. Alors que le premier auteur de la Mishnah disait qu'il faut couper les branches de manière à permettre le passage d'un chameau avec une personne qui le chevauche. Ibayelhu, les Chachamim se sont posés la question suivante. Shiura de Rabbi Yehuda Nafish, est-ce que c'est la limite fixée par Rabbi Yehuda qui est la plus grande, au Dilma Shiura de Rabbanan Nafish, ou bien est-ce que c'est la limite fixée par les Chachamim, donc le premier auteur de la Mishnah, qui est le plus grand? La Gemara répond, Pshita de Shiura de Rabbanan Nafish, il est évident que c'est la limite fixée par les Chachamim, qui est la plus grande limite. De Isal Kadatar Shiura de Rabbi Yehuda Nafish, parce que si tu penses que c'est la limite fixée par Rabbi Yehuda qui est la plus grande, Rabbanan, Beshiura de Rabbi Yehuda, Hechiavde, qu'est-ce que les Chachamim font lorsque présente un cas de la taille de Rabbi Yehuda? C'est-à-dire si, selon les Chachamim, on peut se contenter de couper les branches pour permettre le passage d'un chameau avec une personne qui le chevauche, que feront-ils lorsque se présente, en cet endroit, un chameau chargé de lin et de paquets de branchages qui est plus haut, comme nous l'avons compris? Forcément donc, un chameau avec une personne qui le chevauche est plus haut qu'un chameau chargé de lin ou de paquets de branchages. C'est pour cela donc que c'est les Chachamim qui ont fixé la plus grande limite. La Gemara demande, Ve'la mai shiura de Rabbanan Nafish, alors qu'est-ce que tu veux dire que c'est la limite fixée par les Chachamim qui est la plus grande? Si c'est ainsi, Rabbi Yehuda b'shiura de Rabbanan Mayavid, qu'est-ce que Rabbi Yehuda fait lorsque se présente un cas de la taille des Chachamim? C'est-à-dire, puisque selon Rabbi Yehuda, on peut se contenter de couper les branches de manière à permettre le passage d'un chameau chargé de lin ou de branchage. Alors que fera-t-il lorsque se présentera un chameau avec une personne qui le chevauche? Il sera gêné par les branches. La Gemara répond, Efchar degachin vechalif touté. Selon Rabbi Yehuda, il existe la solution que cette personne qui chevauche son chameau se baisse pour passer en dessous des branches. Alors que si nous disions que c'est la limite fixée par les Chachamim qui est la plus petite, et donc un chameau chargé de lin est plus haut qu'un homme qui chevauche sur son chameau, selon les Chachamim qui disent qu'on peut se contenter de couper les branches de manière à permettre le passage d'un chameau avec une personne qui le chevauche, il n'y aurait pas de solution lorsque se présentait en cet endroit un chameau chargé de lin. Forcément donc, c'est la limite fixée par les Chachamim qui est la plus haute. Donc un chameau avec une personne qui le chevauche sont plus hauts qu'un chameau chargé de lin. הגמרא רוברון פסאז' של המשנה כי די רבי שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה. Tout arbre dont les branches s'étendent sur la voie publique, il faudra en couper les branches en se servant d'un fil à plomb, c'est-à-dire toutes les branches qui dépassent sur la voie publique, et cela à cause de l'impureté. Tana, il a été enseigné dans une braïta pour expliquer ce passage de la Mishnah. Mipne ohel atuma, à cause de l'impureté qui se propage par une tenture. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a beaucoup de branches, donc sur la voie publique, il y a le risque qu'un morceau de chair d'une taille d'une olive provenant d'un cadavre humain tombe sous une partie de l'arbre, et du fait que les branches s'étendent sur une partie de la voie publique, n'importe qui passerait sous cet arbre deviendrait impur, parce que l'impureté se propage sous les branches. La Gemara demande, Pshita, c'est évident que c'est cela l'interprétation de la Mishnah, pourquoi est-ce que la Braïta a eu besoin de l'ajouter? Mipne atumatnan. La Mishnah enseigne clairement, c'est à cause de l'impureté. La Gemara répond, Imimatnitin, si c'était simplement de notre Mishnah, Havamina, j'aurais cru, Dilma maite orev tuma veshadeatam. Peut-être que ce que la Mishnah craignait, c'est qu'un corbeau vienne avec un morceau de chair d'un cadavre humain et le laisse tomber sur l'arbre. Et étant donné que les branches sont serrées, ce morceau de chair risque de rester là-bas et de rendre impur tout celui qui passe en dessous de l'arbre. Et si c'est ainsi, Vesagia bedachlule be'alma, qu'on pourrait se contenter de dégrossir l'arbre en enlevant une branche sur deux, de manière à ce que n'importe quel morceau de chair qui tomberait sur l'arbre tomberait immédiatement par terre. Il n'y aurait donc plus ce risque. Kamash Malan, c'est pour cela que la Bretagne nous enseigne, c'est qu'il y a une autre raison, que même un morceau de chair provenant d'un cadavre humain se trouvant par terre risque aussi de rendre impur tout celui qui passe en dessous de cet arbre, étant donné que l'impureté est propagée par les branches. Et c'est pour cela donc, selon Rabbi Shimon, il faudra couper la totalité des branches qui s'étendent sur la voie publique. Hadran alach lo yarpor. Nous avons fini ici le deuxième perek de Bava Batra, et aussi nous avons fini le shiur de Bava Batra d'Af Kavzaïn.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.